Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Le ministère de la Santé publique a officiellement déclaré l'épidémie de choléra dans 6 provinces de la RDC. Il s'agit du Haut-Katanga, le Tanganyika, le Sud et le Nord Kivu, la Tchopo et le Congo central. C'est le jeudi 8 mai dernier que cette annonce a été faite à travers un communiqué. Depuis le début de l'année 2025, plus de 18 000 cas de choléra ont été recensés, causant plus de 350 décès, soit un taux de létalité de 2%, nettement supérieur au seuil de 1% recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, précise ce communiqué. Le ministre de la Santé publique attribue cette recrudescence des cas à plusieurs facteurs, notamment les pluies diluviennes qui provoquent d'importantes inondations. Quelle analyse faire du regain de l'épidémie de choléra en RDC? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici dans ce studio Dr Adelard Lofungola. Il est chargé de surveillance du Centre des opérations d'urgence de santé publique en RDC. Bonsoir Dr Adelard Lofungola.
Bonsoir messieurs les journalistes.
En ligne, Michel Bissa, il est professeur à l'université de Kinshasa. Il est secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance et un laboratoire de recherche en sciences sociales. Est-ce qu'il est... Voilà, on me dit qu'il n'est pas encore là. Et aussi en ligne, docteur Michel Mouvoudi, il est expert en santé publique et spécialiste principal en santé à la Banque mondiale. Bonsoir, docteur Michel Mouvoudi.
Bonsoir, monsieur Guimassé. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capitaine Suisse.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit, depuis 2 semaines, le ministère de la Santé a officiellement déclaré l'épidémie de choléra dans 6 provinces de la République démocratique du Congo. Il s'agit du Haut-Katanga, le Tanganyika, le Sud, le Nord, Kivu, la Tchopo et le Congo central. Les détails avec Benjamin Moudoumbi.
L'annonce a été faite dans un communiqué publié le jeudi 8 mai 2025. Selon ce communiqué, depuis le début de l'année 2025, plus de 18 000 cas de choléra ont été recensés, causant plus de 350 décès, soit un taux de létalité de 2%, nettement supérieur au seuil de 1% recommandé par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le ministre Kamba a qualifié cette situation de très préoccupante pour le pays. Il attribue cette recrudescence des cas à plusieurs facteurs, notamment les pluies diluviennes qui provoquent d'importantes inondations, ainsi que l'instabilité sécuritaire entraînant des déplacements massifs de populations, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans la province du Tanganyika, par exemple, c'est notamment la zone de santé des Kalemie qui est très affectée. Depuis le début de l'année, plus de 800 cas ont été recensés, dont 8 décès, selon l'un des superviseurs de soins de santé primaire dans la région. D'après ce dernier, cette flambée de choléra est en grande partie due aux récentes inondations qui ont entraîné le déversement de déchets de latrines dans les lacs Tanganyika et la rivière Lukunga. Une partie de la population consomme ces eaux contaminées. Par ailleurs, le manque d'eau potable au robinet fourni par la régie des eaux aggrave la situation sanitaire. À Kindu, dans les Maniema, 100 de cas de choléra a été recensé en 2 semaines à l'hôpital général de Kindu. Selon le médecin directeur de cette structure médicale, Jean Bourédi, la recrudescence de ces cas est principalement due à la consommation d'eau impropre. La prise en charge de patients continue à être assurée par Médecins sans frontières.
Merci à vous Benjamin Moudoumbi, docteur Adelard Lofungula, chargé des surveillances du Centre des opérations d'urgence de santé publique en RDC. L'épidémie de choléra a été déclarée dans les 6 provinces depuis le 8 mai dernier. Qu'est-ce qui a été constaté sur le terrain depuis cette date? Comment évolue cette maladie sur le terrain?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est comme le ministre l'a déclaré, l'épidémie de choléra a commencé dans notre pays, c'est depuis le début de l'année. Vous voyez que dans le communiqué des ministres, il a été bien signalé qu'à la semaine 3, le pays avait déjà dépassé le cap de 1000 cas au niveau du pays. Et vous allez constater qu'à la semaine 17, semaine 18, d'ailleurs, le pays a dépassé également les caps de 2000 cas. Pour cela, l'épidémie a commencé plus à la partie est de la République, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, mais surtout au niveau du Haut-Katanga. Mais on a constaté également que cette épidémie a commencé à suivre le fleuve Congo. Et à suivant le fleuve Congo, ça a évolué au niveau du Olomami. On est arrivé au niveau de Maniema et de Maniema, cela est arrivé au niveau de la Tchopo. Et arrivé à la semaine du 7, c'est pratiquement le 5, et le ministre a été obligé de déclarer officiellement l'épidémie de choléra en RDC, ciblant le 6 provinces. Pourquoi le 6 provinces? Parce que c'est ces 6 provinces qui avaient notifié des cas confirmés de choléra à cette date-là. Mais en ce jour, après les résultats qui étaient sortis après, on comprend qu'à ce jour, on a au moins 11 provinces qui notifient des cas. Le nombre de cas a augmenté à la semaine 18, dépassant le cap de 2000 cas, mais à la semaine 19, on a connu une régression des cas qui est aux environs de 1600 cas à ces jours, ce qui ramène la situation globale à plus de 24 000 cas, et le pays a dépassé les caps de 500 décès à ces jours pour l'ensemble de la République. Et c'est pour ce faire, qu'est-ce qui a été fait exactement? Après la déclaration de l'épidémie, il y a l'Institut national de santé publique, à travers son centre des opérations d'urgence, a mis en place un système de gestion d'incidents. Et le système de gestion d'incidents a été mis en place et un incident manager pour le choléra a été nommé. Et le système de gestion d'incidents a élaboré un plan de réponse pour le choléra en RDC. Et on a mobilisé tout le partenaire autour maintenant de ce système de gestion d'incidents pour essayer d'intervenir afin de contrôler cette épidémie.
Là, c'est après que la maladie soit déclarée officiellement.
Oui, c'est-à-dire que quand le malade et la maladie est déclarée officiellement, automatiquement, le centre des opérations d'urgence passe, est activé en mode de réponse, et lorsque le centre des opérations d'urgence est activé en mode de réponse, un système de gestion d'incidents est mis en place directement et un plan de réponse est élaboré.
Et vous ne pensez pas qu'il serait efficace, n'est-ce pas, d'anticiper, c'est-à-dire de mettre en place une sorte de structure spéciale avec un personnel formé, avec des intrants, n'est-ce pas? Et pour que dès que les problèmes se posent, dès que la maladie se manifeste, tout de suite on intervient au lieu de commencer à réfléchir lorsque la maladie s'est manifestée.
Tout est mis en place. C'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau de la République démocratique du Congo, on a le programme national de l'élimination de choléra, le PENECOL. Le PENECOL, c'est un programme avec deux experts adoués, avérés, très bien formés, expérimentés, qui sont là pour gérer au quotidien le problème de choléra en RDC. Et le choléra en RDC a des facettes. Il y a la facette endémique, hein. On a des zones de santé endémiques du choléra, on a aussi des zones de santé épidémiques. Et les zones de santé endémiques, c'est là où on est en train de gérer chaque jour le problème de choléra sans problème. Mais quand on a vu la recrudescence des cas passer de l'endémicité vers des provinces qui n'ont pas notifié des cas de choléra, il y a 2 ans, 3 ans, et l'augmentation des cas dépassant la létalité par rapport aux seuils recommandés de l'OMS, hein, c'est à ce moment-là on doit renforcer maintenant cette équipe. En voulant renforcer cette équipe, on met en place un système de gestion d'incidents, et le système de gestion d'incidents vient pour renforcer les efforts des routines qui étaient déjà mis en place. C'est comme ça que ça fonctionne.
Voilà, vous venez d'évoquer ce programme national d'élimination du choléra, qui est un programme qui est, n'est-ce pas, piloté par le ministère du Plan et financé par le ministère de la Santé. À ce jour, quel est le niveau de financement de ces programmes?
Le niveau de financement de ces programmes, je pense que le programme est mieux placé pour répondre à cette question. Nous, au centre des opérations d'urgence, nous on travaille plus en mode de réponse. Nous on travaille avec le plan qui a été mis en place. On a élaboré un plan et le plan là a un budget estimé de 5 millions, à peu près 200 000 dollars qu'on devait mobiliser par rapport à ce plan là. Et on a déjà des partenaires qui sont alignés autour cadre de ce plan-là, il y a déjà l'UGPDCS avec la Banque mondiale qui a doté des intrants et les gens sont tentés d'être distribués d'ailleurs ici dans la ville province de Kinshasa. Il y a UNICEF qui s'est positionné pour appuyer les interventions dans le Maniema, le Tchopo, mais ici aussi à Kinshasa. Il y a l'OMS qui a donné les intrants. On a vu dans la presse que ça soit au Congo central, que ça soit à la Tchopo, dans le nord et les sites Kivu et dans toutes les autres provinces, notamment le Haut-Katanga. Mais il y a aussi MSF qui est en train d'appuyer les interventions au niveau de l'Est. Ça a commencé d'ailleurs avant la déclaration de l'épidémie. Et là, il y a Africa CDC qui est en train de se positionner également par rapport à d'autres zones de santé qui ne sont pas couvertes.
Et comment la prise en charge est faite par le gouvernement central, la prise en charge des différents cas?
La prise en charge des différents cas de choléra, lorsqu'on active la réponse au choléra, il y a plusieurs axes d'intervention qu'on appelle souvent des piliers qui sont mis en place. Et parmi ces piliers, il y a la prise en charge des cas. Et dans la prise en charge des cas, dans le système de la RDC, on met en place le centre de traitement. On appelle ça le CTC choléra, les centres de traitement. Mais il y a également les unités de traitement de choléra. Et ces centres de traitement sont mis en place dans toutes les provinces, là où on a déclaré l'épidémie. Je pense que dernièrement, on a vu la situation de Haut-Katanga où il y a eu même un débordement des cas dans les centres de traitement de la Kenyane. On a vu aussi dans les centres de traitement de Kisanga. C'est là où nous saluons les efforts du gouvernement provincial au niveau de Haut-Katanga qui ont mobilisé aussi des ressources pour venir avec le partenaire local pour essayer un peu de désengorger ces centres de traitement qu'on a vu. Et la même situation se vit aussi avec l'apport du gouvernement provincial de la Tchopo.
Vous avez évoqué des zones endémiques. Selon les experts, il y a des villes comme Kalemi, comme Uvira, qui sont des foyers naturels, n'est-ce pas, de cette maladie. Et cela est connu depuis l'époque belge. Et qu'est-ce qui a été fait par le gouvernement congolais, par les différents gouvernements, n'est-ce pas, pour prévenir la réapparition de cette maladie dans ces zones endémiques?
Je pense que vous les avez dit, hein. Il y a au niveau du pays un plan national d'élimination de choléra qui est un plan multisectoriel et piloté par le ministère du plan à travers le CNAEA. Et ce plan-là a été élaboré, vulgarisé. Il y a maintenant au niveau de chaque province, ils ont élaboré le plan de contingence sur le plan d'intervention. Il y a les interventions de routine qui sont menées à partir de Pénécole pour essayer de contrôler la situation tant soit peu dans toutes ces provinces endémiques. Je pense que la déclaration du ministre a très bien stipulé que la situation a dégradé suite à un certain nombre de facteurs. Et parmi ces facteurs, il a parlé des pluies diluviennes. Quand ça déborde, on a maintenant des sécrétions qui sont dans des toilettes, qui montent en surface, qui contaminent le point d'eau existant. C'est possible qu'on puisse avoir cette recrudescence de la maladie. Mais on a connu aussi la situation sécuritaire au niveau de l'Est. Il y a eu le mouvement de population. Je pense que le Nord Kivu était déjà en épidémie il y a longtemps, mais à un certain moment, il y a eu le mouvement de la population qui ont quitté les sites Kivu à travers Uvira, qui ont pris les bateaux pour Tanganyika. Et vous allez voir que ce mouvement de population a correspondu aussi avec la recrudescence des cas au niveau de la ville de Kalemi. Et vous avez compris aussi que toutes ces inondations qui accompagnaient les différentes provinces, là où on a signalé des cas de choléra, pouvaient être aussi à la base de toutes ces recrudescences de choléra-là.
Oui, avant de donner la parole aux autres intervenants, vous avez évoqué, n'est-ce pas, les zones qui sont sous contrôle de la rébellion. Et parmi les 6 provinces où on a déclaré l'épidémie de choléra, et le nord et le sud Kivu sont, n'est-ce pas, contrôlés par la rébellion. Alors, qu'est-ce qui est fait par le gouvernement central par rapport aux cas qui sont enregistrés dans ces provinces? Peut-on dire que le gouvernement central a abandonné ces populations congolaises, ou alors il y a, c'est pas une structure ou un moyen ou un mécanisme que vous mettez en place pour, à travers, n'est-ce pas, les partenaires, intervenir en faveur de ces populations malades, affectées par la maladie?
Les populations de Nord Kivu et de Sud Kivu ne sont pas abandonnées. Je pense que la situation de la population de Nord Kivu et de Kivu prend à cœur le gouvernement central. Je pense qu'avec le partenaire, on a travaillé avec le partenaire pour solliciter des couloirs humanitaires, des corridors humanitaires pour qu'on puisse apporter une assistance à cette population. Et on a travaillé également avec l'UNICEF, avec l'OMS. On a fait parvenir de Kinshasa, les intrants au niveau de Nord Kivu et de Sud Kivu. Il y a des intrants qui sont passés par Nairobi avec comme le Kenya Airways et atterri au niveau de Kigali et arrivé au niveau de Nord Kivu. Il y a aussi certains intrants avec l'UNICEF qui est passé à travers l'UNICEF Burundi et les intrants sont arrivés à Uvira pour le choléra et on a apporté assistance à cette population-là. Et à travers le partenaire qui sont sur place là-bas, on fait toujours parvenir tous les intrants, y compris même des poches de sang. Il y a des poches de sang qui ont quitté Kinshasa pour aller assister en dehors de choléra, même les blessés qui sont au niveau de Nord Kivu et de Sud Kivu. C'est pour dire que la préoccupation de la population qui sont dans la partie sous occupation concerne encore, touche au plus grand point le gouvernement central.
Merci. Michel Bissa, est-ce que vous êtes là? Allô, Michel Bissa? Allô, Michel Bissa, apparemment, il n'est pas là. Voilà, il n'est pas encore là. Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes là?
Oui, je suis là, Monsieur Guimaté.
Voilà, je rappelle que vous êtes expert en santé publique, spécialiste principal en santé de la Banque mondiale. Les ministres de la Santé ont attribué, vous avez suivi hein, les reportages de notre collègue Benjamin Moudoumbi, il a attribué les retours en force de cette maladie à des fortes inondations causées par des pluies diluviennes. À votre avis, à part ces facteurs qui ont été évoqués par les ministres, il n'y en a pas d'autres qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, le regain de cette maladie?
Merci beaucoup, Monsieur Guimaté, pour la question. Alors, il faut d'abord d'entrée des jeux que je précise que lorsque vous avez une maladie, vous avez une traduction de maladie, en fait, la maladie explique tout simplement une perturbation en amont. Et de plus en plus, je le dis, je le répète tout le temps, quand vous voyez la maladie comme une conséquence. Et donc, quand nous voulons mettre fin à cette maladie, il faut regarder les causes. Très important. Et dans le cadre du choléra, il faudra vraiment qu'on n'oublie jamais trois facteurs. Il y a d'abord le facteur connaissance du problème. Est-ce que les populations sont conscientes de la problématique même du choléra? Deuxièmement, quelle est la perception de cette problématique? Est-ce que les gens perçoivent cela comme vraiment une situation de gravité? Et troisièmement, comment nous mettons en œuvre les politiques relatives à la lutte contre le phénomène? Ici, nous parlons du choléra. C'est comme ça que je voudrais déjà mentionner que sur le volet connaissance de la problématique, et là je reste en amont, il y a en fait une perturbation éco-socio-système. Ça veut dire en d'autres termes que nous sommes dans un environnement perturbé et principalement ponctué par un relâchement des mesures d'hygiène, un relâchement des conditions d'assainissement, mais aussi, comme vous pouvez bien l'imaginer, une vaccination contre le choléra qui n'a pas encore eu des couvertures escomptées. Et donc, au-delà du fait que l'on mentionne la situation des inondations, n'oubliez pas qu'en fait, on commence à se rendre compte que le choléra devient une pathologie qui circule aussi les longs des fleuves et les longs des lacs. Cela s'explique justement par le fait que la bactérie qui donne cette maladie utilise aussi le passage dans le poisson. Et donc, lorsque vous avez des pêcheurs qui vont sur les lacs, qui prennent ces poissons et qui n'arrivent pas à bien les préparer, eh bien, vous assistez justement à une transmission de cette maladie-là. C'est comme ça d'ailleurs que vous pouvez expliquer que la maladie est très présente le long des cours d'eau sur les lacs parce que à la fois vous avez cette bactérie qui reste dans les poissons et si les poissons ne sont pas bien bien préparé, cela peut justement entraîner une contamination chez l'homme. Mais de l'autre côté aussi, M. Guimaté, vous n'avez qu'à regarder dans quelles conditions ces pêcheurs travaillent. C'est des personnes qui partent la nuit sur le lac ou le fleuve et qui reviennent le matin sans boisson d'eau potable, sans tout ce qu'il faut comme mesure d'assainissement. Ces gens, vous allez vous rendre compte, j'ai eu à le constater, ils boivent l'eau du lac, ils boivent l'eau du fleuve, et donc, en rentrant au village, ces personnes amènent la maladie, et c'est comme ça que nous avons cette propagation-là. Donc, c'est très important déjà de rendre compte que si nous voulons mettre fin à cette situation, il faut qu'on ait une lutte multisectorielle, il faut qu'on implique tous les secteurs. Et vous vous imaginez bien déjà avec ne fût-ce que cette prise de conscience de la maladie, qu'en fait le secteur des ressources hydrauliques est concerné, le secteur du développement rural est concerné, l'urbanisme et habitat est concerné, parce que justement les conditions d'hygiène aujourd'hui laissent à désirer. Je rappelle ici qu'en 2018, nous avions changé la dénomination du ministère de la Santé en l'appelant ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Mais malheureusement, il faut l'avouer que nous avons tout fait, mais on n'a pas compris qu'en fait aujourd'hui, l'hygiène constitue un instrument puissant pour mettre fin à certaines maladies, dont le choléra. Et si nous voulons voir une déflation du nombre de cas, nous devons agir en amont. Nous devons travailler sur les déterminants de cette maladie. Et les déterminants de cette maladie, c'est notamment cette question d'hygiène. Vous savez le voir ici à Kinshasa. Allez dans les provinces dont on vous parle, vous allez vous rendre compte que ce soit l'hygiène péri ou intradomiciliaire, c'est vraiment une situation catastrophique de santé publique. Mais au-delà de ça aussi, la promiscuité et surtout le manque d'accès à l'eau potable, je crois que ça, ce sont des éléments sur lesquels nous devons travailler. Donc les causes sont multiformes. Alors, sur la perception de la maladie, M. Guimaté, je crois qu'une chose, c'est de dire, ok, nous connaissons, nous savons que le choléra est une maladie, aujourd'hui une situation de santé publique, mais est-ce que nous avons la perception de la gravité? Est-ce que les décideurs, au niveau local, au niveau intermédiaire jusqu'au niveau central, est-ce que tous les décideurs comprennent qu'en fait, nous sommes devant une situation qui touche le capital humain? Nous sommes devant une situation qui engage des moyens. C'est comme ça d'ailleurs que, dans mon introduction, j'insistais beaucoup sur la prévention, parce que quand nous nous mettons seulement à dire « Ok, on a des cas traitons », en fait, on dépense plus. Mais pendant que si nous mettons un accent sur l'hygiène, nous mettons un accent sur la connaissance de la maladie dans les populations, nous allons éviter d'avoir des malades, parce que quand vous avez déjà un malade, il ne peut pas produire, c'est une personne qui est immobilisée. Mais de l'autre côté aussi, cette personne va engager les quelques ressources de la communauté pour pouvoir prendre en charge sa situation catastrophique. Donc, ça reste encore très important de faire de cette problématique une priorité. Je remercie là-dessus le collègue Adelar qui a parlé justement de cette déclaration. Mais cette déclaration ne doit pas rester tout simplement un vœu, ne doit pas rester une annonce, mais elle doit engager toutes les parties prenantes et elle doit se traduire par une déflation du nombre de cas. J'apprécie les efforts qui sont faits, mais de ce que je vois, on a encore beaucoup à faire, et surtout sur le volet préventif. Et finalement, le troisième pilier, c'est la mise en œuvre de toutes ces stratégies que nous mettons en place pour pouvoir mettre fin à la propagation du choléra. Et cette mise en œuvre, moi, en tout cas, j'insiste avec l'expérience que j'ai, on devra premièrement insister sur les mesures préventives, deux, insister beaucoup sur la multisectorialité. C'est pas le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention sociale seul qui va résoudre la question de choléra. Les déterminants de choléra doivent être résolus par tous les secteurs, notamment les secteurs qui sont impliqués dans la desserte en eau potable, les secteurs qui sont impliqués dans l'hygiène et l'assainissement du milieu, les secteurs qui sont impliqués dans la communication, n'est-ce pas? Parce que les populations doivent adopter des comportements favorables à la santé. Mais troisièmement, et ça serait très important, c'est s'appuyer encore une fois de plus sur les zones de santé. J'insiste encore une fois de plus que nous sommes dans la politique des soins de santé primaire. Nous devons donner davantage la force, le leadership aux zones de santé. Parce que quand vous travaillez avec les communautés à la base, ben ces communautés se prennent en charge, ces communautés comprennent, elles participent. Vous l'avez vu avec la Covid, vous l'avez vu avec les épidémies de la maladie à virus Ebola. Chaque fois que nous avons mis la population devant, chaque fois que nous avons travaillé avec elle, on a très rapidement constaté une déflation du nombre de cas. Je crois qu'il faut structurer justement cette réponse autour de ces quelques points holistiques que je venais de mentionner, en insistant sur le fait que une maladie, que ce soit le choléra ou autre, c'est la traduction d'un désordre, d'un dérèglement qu'il faudra regarder et donc traiter la cause et non la conséquence.
Et donc, après vous avoir suivi, après, n'est-ce pas, ces tableaux que vous venez de présenter, la leçon à tirer par le gouvernement central serait, n'est-ce pas, d'envisager, de concevoir un plan efficace, n'est-ce pas, d'aménagement des villes, et aussi un plan efficace à travers lesquels on peut assurer la desserte en eau potable à travers toutes les provinces de la RDC.
Alors, il y a deux facteurs là-dedans, M. Guimaté. D'abord, le premier facteur, je suis très content, c'est d'abord déjà comprendre que tous les secteurs doivent être engagés par rapport aux déterminants que je venais de mentionner. Très important d'avoir cet aspect plurisectoriel en tête, ok? Que c'est une question qui touche à l'eau, qui touche à l'assainissement, qui touche à l'hygiène, qui touche à l'habitat, qui touche au développement rural. Ça, c'est déjà très important. Je crois que Dr. Adelard l'a bien mentionné aussi. Mais deuxième élément, Monsieur Guy, faire un plan, c'est un exercice. Mais mettre en œuvre ce plan, c'est un autre exercice. C'est parfois le plus difficile. Et je peux vous donner mon expérience, ça fait près de 25 ans que je travaille en santé publique. Ben, les pays, de manière globale, hein, sont habitués à rédiger des plans, mais vous avez toujours de gap entre le plan élaboré, qui est parfois de très bonne qualité, et la mise en œuvre. Et c'est comme ça que, parfois, on a des meilleurs plans dans les bureaux, mais sur le terrain, la maladie continue. On l'avait vu avec vous pendant la pandémie de la Covid-19. C'est comme ça que j'insiste sur le fait que, quand on a élaboré les plans, mais c'est justement déployer les ressources et faire en sorte que le plan soit mis en œuvre. L'indicateur, ce n'est pas le nombre de financements mobilisés, ce n'est pas le nombre de plans élaborés, c'est est-ce que nous constatons qu'il y a une déflation du nombre de cas, et dans le cas d'espèce, c'est mettre un accent sur la prévention. C'est très important. Mais aussi, M. Guimaté, j'insiste, hein, on devra travailler beaucoup sur la décentralisation du système. Nous devons faire en sorte que les plans partent de bas vers le haut, parce que si vous êtes ici à Kinshasa, vous n'allez pas gérer une épidémie de choléra à Kalemie, vous n'allez pas gérer une épidémie de choléra à Congo, vous n'allez pas gérer une épidémie de choléra, je ne sais pas moi, à Katana.
Donc une certaine décentralisation.
De le faire.
Une certaine décentralisation.
Exactement. Donc décentraliser, pas seulement en termes de script, mais décentraliser aussi en donnant beaucoup de moyens à la base.
Merci.
Pour permettre à ce que les équipes à la base puissent être capables d'anticiper.
Merci.
Lorsque les phénomènes morbides, dont les choléras, commencent dans leur proximité.
Merci, Michel Biss, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis bien là, merci.
Voilà, bonsoir, on n'a pas eu l'occasion de se saluer au début de l'émission.
Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Voilà, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa, vous êtes secrétaire scientifique de l'Observatoire de la Gouvernance, un laboratoire de recherche en sciences sociales. Professeur Michel Bissa, comment vous avez réagi lorsque vous avez suivi le ministre de la Santé publique le 8 mai dernier déclarer l'épidémie de choléra dans 6 provinces de la RDC?
Oui, nous avons suivi avec attention et intérêt cette déclaration. Et il suffit de suivre les propos du ministre, de suivre les mesures qui sont annoncées, mais aussi d'observer sur le terrain la faiblesse que l'État manifeste face à une question d'urgence. On comprend que nous sommes face à une situation de délitement de l'État. Je suis tout à fait d'accord avec tous les tableaux que les prédécesseurs ont bossés et les questions qui sont en train de soulever, notamment autour de la connaissance du problème, notamment autour de la perception des politiques. Mais notez ceci, monsieur le journaliste, que le choléra, c'est quand même une question vieille comme le monde. Et le monde entier, et surtout chez nous dans notre pays, nous sommes à notre énième épidémie de choléra. Et donc, on devrait avoir à la fois des politiques publiques, des plans, des mesures de riposte et surtout des plans d'intervention rapide lorsque, si et là, au niveau du territoire national, cette question vient. Mais aujourd'hui, le problème avec choléra, ou tout comme avec toutes les maladies qu'on appelle des mains sales, ce sont des maladies qui sont en train de migrer. À telle enseigne qu'aujourd'hui, vous savez, au début des questions de choléra n'étaient pas considérées comme des questions zoonotiques, c'est-à-dire des maladies qui pouvaient se transmettre de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal, dans un contexte où l'environnement est propre et pris en charge, on limite au maximum la survenue des épidémies. Et alors, à ce moment-là, les épidémies peuvent partir des cas cliniques pour se généraliser. Mais aujourd'hui, le grand problème que nous avons n'est même pas d'abord le problème de la prise en charge, c'est d'abord le problème de la prévention. Mais regardez, nous vivons dans une ville poubelle ou dans une république poubelle. Le fleuve Congo n'est plus tiré, nos lacs, il n'y a aucune mesure qui est prise en charge pour le maintien de nos systèmes d'eau. Pour la ville de Kinshasa particulièrement, on nous informe par des spécialistes de l'école de l'eau de l'université de Kinshasa que même la nappe phréatique a été entamée. Les gens creusent, ils touchent la nappe phréatique avec la survenue de tout ce que nous avons aujourd'hui, comme forage et autres éléments. Ça fait que nous vivons dans une poubelle. Autre élément, monsieur le journaliste, c'est que pour toutes ces questions de santé publique, en tout cas en majorité, ce sont les financements internationaux qui semblent nous prendre en charge. On a parlé tout à l'heure de la problématique de la vaccination. Aujourd'hui, il est possible de vacciner les gens contre le choléra. Mais nous n'avons pas réussi au niveau de l'État à y mettre suffisamment de moyens pour pouvoir prévenir la survenue de ces questions. Donc, on peut à la fois prévenir en assainissant notre espace, en assainissant le milieu de vie, l'eau, et l'environnement de manière générale, l'air de la République, ça, il n'y a aucun programme. Nous pouvons également prévenir, notamment en nous engageant dans des programmes de vaccination. Et aujourd'hui, c'est notamment, vous savez qu'au début de ce plan de vaccination, le fonds USAID des Américains était en train d'intervenir, notamment pour le PVV, mais aussi pour une multitude de vaccins. Et l'USAID ayant été en tout cas suspendu pour le cas de la République démocratique du Congo, moi je pense que c'est l'État qu'il faut d'abord mettre au devant de ses responsabilités. Et lorsqu'on dit qu'il faut faire une question de socialisation, en impliquant toutes les structures de socialisation, c'est l'État qui doit drainer les églises, les écoles, les médias, les partis politiques, ainsi de suite. Mais depuis le 8 mai, on a déclaré l'épidémie de choléra. Combien de médias dans notre pays ont été mobilisés? Je pense que si la radio Capi en parle aujourd'hui, c'est à cause de son engagement citoyen, simplement. Mais c'est l'État qui devrait mobiliser les médias publics et privés pour en faire une question d'urgence nationale. En tout cas, à mon avis, aujourd'hui, c'est une preuve du délitement de l'État. C'est la faillite des services publics chargés de cette question. Merci. Et puis, bon, même la mentalité dont on peut parler, il faut que ça parte de l'État.
Oui, professeur Michel Bissa, vous avez tous reconnu aussi que c'est un problème multisectoriel, n'est-ce pas, qui implique plusieurs acteurs, et notamment vous, scientifiques et enseignants, parce que vous avez des étudiants, n'est-ce pas, à gérer. Et vous avez suivi docteur Mouvoudi qui a évoqué trois aspects, à savoir la connaissance du problème, la perception de cette problématique, n'est-ce pas, la société, et comment mettre en place des mécanismes pour riposter lorsque le problème se présente. Vous, en tant qu'enseignant, et quelle peut être votre contribution, n'est-ce pas, justement par rapport à ces trois aspects qui ont été évoqués par le docteur Michel Mouvoudi?
Oui, c'est ça que j'étais en train de dire, que par rapport à ce triangle qu'il a évoqué, sur le plan de la connaissance, aujourd'hui, choléra fait partie des questions suffisamment étudiées et où les connaissances scientifiques existent, les bases de données aussi bien au pays qu'à l'étranger existe. Et j'étais en train de dire ici que la RDC n'est pas novice en la matière. Aussi bien choléra, vous pouvez prendre même d'autres cas comme Ebola, comme... En tout cas, ce n'est pas la même réalité que nous avons eu avec COVID-19 qui nous a surpris. Ici, nous sommes face à une épidémie qui a l'habitude de se venir, où il y a eu plusieurs plans de riposte. C'est pourquoi je disais qu'à ce stade ici, ce qui compte, c'est de mettre en place des mesures de prévention. Et ces mesures de prévention nécessitent un budget conséquent. La vérité est qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé publique, hygiène et prévention n'a pas suffisamment de moyens de sa politique. La vérité est qu'au niveau de l'État, la santé n'est pas mise à la place où elle devrait être, tout comme l'éducation de l'État. Si on peut entrer dans les détails, le conseiller du ministre est là, il peut vous dire combien sont des demandes de financement qui tiennent compte des maladies prioritaires, y compris même des maladies négligées dans le pays, et qui ne sont pas financées. Donc l'État n'a pas fait de la santé de la population
sa priorité.
Une des priorités.
Merci.
Et cette priorité-là, c'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il nous faut encore confectionner des plans, des ripostes, et tous ces plans existent. Mmh. C'est vrai, on peut les contextualiser, mais face aux épidémies, l'État doit avoir un plan d'intervention rapide. Mmh. Et pour une épidémie comme choléra, ce n'est pas normal qu'on se retrouve dans une telle situation. Il n'y a pas un fonds dédié à ce genre d'urgence. Parce que nous parlons de la vie. Et nous avons abandonné ça entre les mains des partenaires au développement.
Merci pour ça.
Et ce sont eux qui prennent en charge tout. Bon, merci beaucoup, monsieur Jean.
Merci. On continue avec vous, n'est-ce pas? On vous maintient dans cette émission. Nous allons donner maintenant la parole, n'est-ce pas, aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Et là, pour vous, docteur Adelard, on va écouter l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
J'appelle à partir de Kisangani, Monsieur Blaise Saïd Atoub. La situation est d'autant plus préoccupante. Le choléra est une maladie inévitable. Néanmoins, sa persistance dans la région met en évidence des défis structurels en matière de gestion de l'eau, d'assainissement et de sensibilisation sanitaire. Une approche multisectorielle impliquant les autorités locales, les partenaires internationaux et la communauté est essentielle pour contrôler cette épidémie et prévenir des futures flambées. Quelques questions à l'invité. Quels facteurs environnementaux et climatiques qui aggravent la situation dans les provinces touchées? La deuxième question, est-ce que les mesures prises par les autorités sanitaires sont-elles suffisante et adaptée? Troisième question, quelle est la situation des infrastructures d'eau potable et d'assainissement dans les zones les plus touchées? Pour terminer, les campagnes de sensibilisation sont-elles efficaces auprès de la population locale?
Oui, docteur Adelard, quelles sont vos réponses à cette série de questions?
Oui, merci beaucoup, Monsieur Guimaté. Je pense que par rapport à ces questions-là, si je dois aller rapidement, le facteur environnemental par rapport au choléra, je pense que mes prédécesseurs l'ont dit, il y a d'abord le problème lié à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement. Mais ce problème-là, il est quand même spécifique par rapport aux catégories des zones. Parce que au niveau de la RDC, on a des zones endémiques du choléra. C'est la plupart des zones qui sont le long du lac. Et là, on a le réservoir même des vibrio cholérés. Et ce sont des gens qui vivent du choléra de manière, peut-être chaque année, ils ont des cas sporadiques qui perdirent là-bas, parfois sans ou avec flambée.
Le choléra est une endémie dans ces zones.
Alors, il y a d'autres zones de santé.
Et il y a des mesures spécifiques qui ont été prises par le gouvernement pour...
Je vais en arriver. Ouais. Alors, d'autres zones de santé, ce sont les zones épidémiques. Ce sont les zones épidémiques ou les zones où le vibrio n'a pas un réservoir. Il ne vit pas de manière permanente. Quelle que soit les conditions, lui ne vit pas là. Mais c'est le transport du vibrio est fait, la plupart des cas, par l'homme. Et quand l'homme arrive dans cet environnement-là, et comme mes prédécesseurs l'ont dit, comme Michel a évoqué les problèmes de pêcheurs, ils arrivent dans un coin au bord du fleuve, à travers le moyen de transport. On arrive dans un coin où il n'y a pas de latrines. On arrive dans un coin où il n'y a pas de l'eau. Il est obligé d'utiliser le fleuve comme un lieu de défécation. Et ces mêmes fleuves-là, l'eau du fleuve est utilisée pour la cuisine, pour la boisson, et ça contribue à la propagation de la maladie. Et quand ça contribue à la propagation de la maladie, on peut aller directement quelles sont les mesures que nous devons prendre le plus rapidement possible. Dans les mesures que nous devons prendre le plus rapidement possible, quand on comprend ces facteurs environnementaux qui fait en sorte que les germes qui sont dans des toilettes, des germes en épidémie dans des zones endémiques, à travers le moyen des transports, ils peuvent se déplacer. Lorsque le contrôle ne soit pas bien organisé au niveau de points d'entrée, au niveau de points de contrôle, c'est l'homme qui fait sûr qu'il ait la maladie. Est-ce que l'homme arrive dans un coin où les mesures d'hygiène ne sont pas respectées? Ils utilisent soit la défécation à l'air libre, soit des latrines qui ne sont pas protégées, soit encore on n'a pas de sources d'eau protégées. Avec de l'eau, ces points d'eau sont contaminés, ou encore on utilise l'eau de la surface. Face à ce moment-là, on voit l'extension de la maladie. Alors, ce mesure va nécessiter premièrement, comme le prédécesseur l'a dit, l'approche le plus efficace, c'est d'abord l'approche communautaire. Après, l'approche communautaire qui doit être faite.
Est-ce que vous insistez sur cette approche communautaire?
Exactement.
Est-ce que la population, comme l'a dit, l'a relevé Michel Mouvoudi, la population connaît très très bien cette maladie, bien qu'elle soit une vieille maladie dans ces pays? Mais est-ce que la population connaît bien la maladie et est-ce qu'elle a, elle a une véritable perception de la maladie?
Exactement. C'est là où je soutiens Michel, mais en nuançant les choses. Dans les zones endémiques, les gens connaissent la maladie, comme le professeur l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas un phénomène nouveau en RDC. Mais c'est dans les zones épidémiques qu'on a trouvé que la situation était nuancée. Tu sensibilises la population, il dit nos parents ont bu cette eau. Nos arrière-parents ont bu cette eau, il n'y avait pas de choléra. Comment aujourd'hui vous pouvez nous dire que en buvant l'eau de surface, nous pouvons avoir de choléra, alors que nous on a grandi ici pendant des vingtaines d'années, on n'a jamais connu ce problème. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la perception pose problème. Cette perception-là doit être encore sensibilisée au niveau de la population dans des zones épidémiques pour qu'ils comprennent la même chose. Nous on a été en intervention, quelque part. Et quelqu'un vient comme ça, pendant qu'on est tenté de sensibiliser par rapport au choléra, il vient puiser de l'eau et il boit devant vous, il jette et dit non, nous on est immunisés, nous ça ne fait rien. C'est pour dire qu'à un certain moment, il y a de quoi cette perception de le problème n'est pas la même chose dans toute le parti de la République.
Il faut reconnaître qu'il y a un déficit, n'est-ce pas?
Exactement.
Par rapport à la campagne médiatique et tout ça, il n'y a pas des spots jusque-là conçus et qui sont, n'est-ce pas, diffusés dans les médias ou publiés dans les journaux. Alors que il y a nécessité, n'est-ce pas, de concevoir ces spots.
Exactement, il y a nécessité de concevoir ces spots. Mais même la communication, il y a des stratégies. Pendant la riposte, il y a la stratégie de communication. Dans la stratégie de communication, on va par l'identification de la cible. Quelle est la cible qui est la plus concernée? Si la cible est la plus concernée, et le pêcheur qu'on est en train de le dire, qui n'a pas de radio, qui n'a pas de connexion internet et tout ça, il faut développer des mécanismes qui peuvent se faire en sorte que le message puisse le trouver dans les îlots, là où il est, et c'est lui qui va juste aider à changer de comportement. Même cette sensibilisation, ça se fait, mais il y a des stratégies très spécifiques que nous sommes en train de développer quant à ça.
Merci, docteur Michel Mouvoudi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu.
Emina Mwanda Asani Kangolingoli, depuis la ville de Bukavu, au sud de Kivu. La résurgence des choléra dans les 6 provinces telles que communiquées par le ministère de la Santé publique démontre les limites du gouvernement souminois, porteur d'espoir de tout un peuple transformé en désespoir. Nul n'ignore la dangerosité des choléra, une maladie de mains sales qui s'accroît surtout dans des provinces plongées dans les coups d'insécurité ces derniers temps. La simple déclaration ne suffirait pas si rien n'est prise comme mesure d'éradication de cette maladie. La reconstitution des cellules en charge de certaines questions sanitaires et impérieuses et la constitution des organes de riposte contre choléra s'avère indispensable. Sans cela, le choléra viendra ravager les rescapés de guerre et les survivants des conflits de l'est du pays.
Docteur Michel Mouvoudi.
Oui, merci beaucoup Guy Maté. Non, je pense que je vais d'abord rappeler ici que Lorsque nous parlons d'un problème de santé publique, il faut qu'on se mette en tête que les responsabilités sont collectives. Hein. Si vous ne vous lavez pas vos mains, c'est pas le gouvernement qui devrait venir vous amener, vous laver les mains. Il y a une part très 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 claire, n'est-ce pas, de nos populations, mais je suis aussi tout à fait d'accord que nos systèmes de gouvernance de manière globale ont aussi une certaine responsabilité. Rappelez-vous ce que je disais à l'époque quand on avait d'autres épidémies, j'insistais en disant, attention, lorsque nous sommes face à une épidémie, chacun de nous a un rôle à jouer. Et là, il faudra pas se mettre dans une position de, je crois que c'est la faute de tel, c'est pas ma faute. Nous avons une responsabilité collective dans ce problème et nous devons travailler ensemble pour que chacun joue son rôle. Deuxièmement, Monsieur Guy Maté, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qu'en fait, je l'ai mentionné, la réponse au choléra est une réponse multisectorielle. Ok, elle va toucher à l'eau, elle va toucher à l'assainissement, elle va toucher à la sécurité, elle va toucher aux infrastructures, elle va toucher à la communication. Et je pense que de plus en plus, et j'apprécie ce que vient d'être dit, c'est que l'on construit justement ces réponses multisectorielles, mais qu'on se rassure que les mesures sont en train d'être mises en place, si vous voulez bien, en train d'être mises en œuvre. Parce que c'est la mise en œuvre qui transforme la situation d'un état, d'un paradigme négatif vers un paradigme positif. Troisièmement, il faudra qu'on se rappelle encore une fois de plus ce que j'ai dit avant. Si vous avez un phénomène morbide, si vous avez un problème de santé publique, recherchez les causes. Généralement, ce que nous faisons, c'est aller éteindre les feux, mais oubliant les causes qui emmènent au feu. Et dans les cas d'espèce, nous connaissons très bien ce qu'il faut faire pour pouvoir mettre fin à cette problématique. La recrudescence veut dire tout simplement qu'il y a eu quelque part un relâchement, qu'il y a eu quelque part un déficit dans la manière de gérer, dans la manière de comprendre, mais aussi dans la puissance de nos outils de communication, comme tu l'as très bien mentionné. Et je crois que si nous travaillons comme ça, en mettant en exergue aussi le fait que nous pouvons mobiliser en interne de ressources, je crois que nos populations peuvent être capacitées à pouvoir mettre fin à ce fléau. J'insiste beaucoup sur la communication pour le changement de comportement. Et j'insiste aussi sur le fait que si nous travaillons en renforçant la communication, en voulant à ce que les communautés changent de comportement, nous allons déjà voir une dépression de cette maladie. Merci. Les populations nous ont toujours montré leur capacité à changer des situations lorsqu'elles comprennent et lorsqu'elles s'engagent.
Merci, professeur Michel Bissa. Vous allez réagir aussi à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Chris Pierron-Pagna, depuis la ville de Lubumbashi, expert en santé publique et cadre de la société civile Santé au Katanga, depuis la ville de Lubumbashi. Bonsoir, Radio de la Paix. Quand le dire est bon, le facile n'a pas de profit, dit une sagesse bantou. La recrudescence des cas de choléra dans ces espaces sanitaires est claire et nette, la résultante d'une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels dont le ministère de la Santé doit très vite organiser les états généraux de la santé pour adapter une nouvelle politique de santé à la hauteur des attentes de la population. À Lubumbashi, par exemple, la majorité des tuyaux de la régie des eaux sont troués. Ça expose toute la population dont la qualité de l'eau qui coule dans nos robinets devient le meilleur problème de la santé publique. Comment voulez-vous mettre fin à une épidémie sans faire participer la population dans la sensibilisation dont la première personne qu'il fallait associer dans cette sensibilisation serait le chef des quartiers, le chef des riz, le chef d'avenir, les pasteurs, les enseignants et autres.
Professeur Michel Bissa.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis tout à fait d'accord avec une bonne partie de ce que dit l'auditeur, mais je regrette beaucoup les arguments avancés par monsieur Michel. Je pense qu'il est du cabinet du ministre de la Santé publique.
Non, non, il n'est pas, du cabinet du ministre de la Santé publique.
Ok. Pour le moment, je l'ai dit ici que le choléra dans notre pays, il y a des zones où c'est vraiment endémique et il y a des zones où on vient de les déclarer épidémiques. Mais aujourd'hui, j'ai dit clairement ici que ce n'est pas le moment de commencer à chercher les causes lorsqu'on est en pleine épidémie qu'on connaît bien, dont on connaît les causes. Et puis des deux, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire aujourd'hui de se laver les mains pour éviter d'attraper la maladie, alors qu'on risque même de se laver les mains dans une eau contaminée. Nous avons la contamination de l'eau, Même l'eau qui coule dans nos robinets, rien ne nous garantit que cette eau-là est une eau saine, une eau propre ou potable. C'est-à-dire que nous avons un problème qui vient d'abord de l'espace public. C'est vrai, je suis d'accord que la responsabilité est partagée. On doit impliquer tout le monde, mais l'État a la plus grande part de la responsabilité. Monsieur le journaliste, c'est depuis le 8 mai qu'on a déclaré l'épidémie dans au moins 6 entités de la République. Nous sommes aujourd'hui le 21 mai. Il n'y a pas suffisamment de communication, il n'y a pas suffisamment de spots publicitaires, il n'y a pas suffisamment de communiqués. On ne peut pas nous dire, face à une épidémie aussi mortelle que choléra, qu'on a traversé 3 semaines en train de chercher des causes, en train de mettre en place la riposte. Non, je l'ai dit, aujourd'hui, à part choléra, nous sommes en train de parler de choléra. Mais notre pays est aussi frappé de l'épidémie de Mackinpox. Nous sommes aujourd'hui frappés par des épidémies de grippe ici et là. Mais face à toutes ces questions, quels sont les moyens? La vérité est que l'État n'a pas mis en place suffisamment de moyens pour faire de la santé publique une question de priorité gouvernementale.
Merci.
Et continuer à dire que la responsabilité doit être partagée pour pouvoir en lutter, c'est vouloir occulter la plus grande responsabilité de l'État qui doit mobiliser, fédérer tout le monde. Ça ne suffit plus aujourd'hui de dire aux gens qu'ils doivent se laver les mains. Il faut encore leur dire qu'ils doivent se laver les mains dans quelle eau ou qu'est-ce qu'il faut faire de l'eau qui existe. Et c'est toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, en tout cas à mon avis, nous sommes face au délitement de l'État. Nous faisons face à des épidémies et des pandémies qui sont négligées alors que ça ne devrait pas être négligé. Nous avons abandonné notre vie et notre santé au bon soin des programmes de développement internationaux alors que ça devrait être la question de la souveraineté nationale.
Merci,
et ça peut
professeur.
Toucher chacun d'entre nous à tout moment.
Voilà, nous sommes presque à la fin de l'émission, professeur Michel Bissa. Est-ce que on peut éradiquer le choléra dans ces pays? Est-ce que c'est possible? Ça sera
oui,
votre conclusion.
C'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Il suffit qu'il y ait une politique publique volontariste, des mesures d'action holistiques. Il est possible d'éradiquer le choléra, tout comme toutes les autres épidémies que nous vivons. C'est possible, c'est question de moyens, c'est question de suffisamment de volonté politique, et ça nous manque aujourd'hui.
Merci, professeur, docteur Adelard Lofungula. Quelles sont, n'est-ce pas, les actions préventives efficaces et novatrices qui doivent être envisagées pour justement arriver à éradiquer le choléra de la RDC?
Éradiquer le choléra à la RDC, il faut avoir des interventions à 3 niveaux. On doit avoir des interventions à court terme, comme il y a l'épidémie, il y a le feu qui s'y est allumé, il faut chercher rapidement à éteindre ce feu-là. Deuxièmement, on doit avoir des interventions à moyen terme. Les interventions à moyen terme tournent autour d'une stratégie communautaire. Une appropriation des interventions par la communauté. Et en troisième lieu, on aura maintenant des interventions à long terme où le gouvernement va mettre en place des infrastructures, des outils multisectoriels efficaces comme ça a fait le PREV dans d'autres pays pour arrêter cette épidémie. Si on ne voit pas de cette manière et si la population n'est pas préparée, on va mettre des outils, on va mettre des infrastructures, on va mettre des ouvrages d'eau. C'est cette même population qui va encore les abîmer parce que la population n'a pas été préparée.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Docteur Michel, vous allez aussi conclure. Pour vous, c'est quoi la solution idoine, n'est-ce pas, pour combattre de manière efficace cette maladie?
Non, très rapidement.
Voilà, apparemment, le docteur Mouvoudi est parti, il était coupé. Est-ce qu'il y a possibilité de les rappeler? C'est possible? Voilà, donc je pense que c'est un problème des réseaux.
Voilà. Allô, monsieur Guimaté?
Oui, docteur, allez-y.
Oui, il y a eu un petit problème des réseaux. Non, je disais tout simplement que, en fait, pour moi, la stratégie efficace repose sur 3 piliers. D'abord, le premier pilier, c'est
toutes ces questions de gouvernance, notamment, je suis tout à fait d'accord à ce que l'on mobilise suffisamment de ressources en interne, mais pas seulement les mobiliser, mais correctement les utiliser, les orienter vers la priorité qui en fait cette épidémie de choléra. Deuxièmement, je voudrais ici rappeler aux uns et aux autres que prendre en charge une urgence n'exclut pas la prévention. Parce que dans la chaîne de transmission, vous avez justement des actions de prévention. Je venais de les citer, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est principalement l'hygiène, l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la vaccination. Mais que cela se complète aussi avec, n'est-ce pas, le traitement des réservoirs. C'est très important, sans oublier la dimension zoonotique de la maladie. Donc il ne faudra pas qu'on pense que faire de la prévention exclut la prise en charge de cas. Même en mode d'urgence, il faut regarder la chaîne de transmission. C'est pourquoi on l'appelle chaîne de transmission. Et troisièmement, je reviens sur le rôle de la population, sa connaissance de la maladie, sa perception de la maladie et son engagement vers un comportement favorable à la santé. Je crois que si nous travaillons en ce sens-là, il est possible justement d'avoir une situation qui s'embellit et qui permet à ce que nous ayons une population en bonne santé et qui contribue à la croissance économique de notre pays.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Docteur Adelar Lofungola, professeur Michel Bissa et docteur Michel Mouvoudi. Merci également à Kéline Kouté qui l'a réalisé, assisté de Benjamin Moudoumbi. Polydor Bassoum était à la technique avec la participation de Jonathan Fouanani, Clément Chimanga et Hervé Voka, sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Capi.